Donc le titre de cette session est le Coran, objet religieux à l'université publique. Je souhaiterais l'expliciter quelque peu et parler plutôt du Coran comme objet d'étude de la science séculière, comme objet d'étude de l'historien des religions, c'est-à-dire comme un document, à vrai dire un corpus et pas un livre, du Proche-Orient du 7e siècle. Le ductus consonantique, en effet, prend une forme proche de celle que nous connaissons durant la seconde moitié du 7e siècle. Quand exactement est une autre question. Et donc, en tant qu'objet d'étude de la science séculière, le Coran est certes un document religieux, c'est-à-dire un document ayant une valeur ou une fonction religieuse pour ceux qui sont derrière sa composition et ceux qui sont à sa réception, mais c'est aussi un document historique, linguistique et littéraire. La question n'est donc pas de savoir si l'on intervient dans le cadre d'une université non confessionnelle ou confessionnelle. Elle est de savoir quelle discipline on pratique. J'ose espérer, par exemple, qu'à la KUL ou à Notre Dame, aux États-Unis, deux universités et catholiques éminentes, chères au cœur de mon ami Mehdi, dans le cursus des sciences de la vie, on enseigne la théorie de l'évolution et pas, par exemple, la théorie du dessin intelligent ni le créationnisme. J'imagine qu'on ne dit pas, par exemple, que la théorie de l'évolution est une hypothèse, sous-entendu une simple option parmi d'autres, ou bien qu'elle est établie pour les animaux, mais qu'elle reste conjecturale en ce qui concerne l'homme. En d'autres termes, j'espère, même si évidemment je sais que ce n'est pas le cas dans tout l'établissement confessionnel à travers le monde, j'espère qu'on y fait tout simplement de la science. Or, en principe, faire de la science séculière dans une université confessionnelle n'est pas différent de faire de la science séculière dans une université non confessionnelle. En revanche, les universités confessionnelles pourront avoir un département de théologie, ce que l'on a peu de chances ou peu de risques de trouver dans une université non confessionnelle, alors que des séminaires, formant par exemple des prêtres ou des pasteurs, pourront prodiguer un enseignement, par exemple de critique textuelle, qui, théoriquement, devrait relever purement et simplement de l'histoire et de la philologie, et ne pas être contaminé ou coloré par des options théologiques. Certes, l'histoire et l'ensemble des disciplines impliquées dans les sciences des religions n'est pas une science exacte ni une science dure. Mais cela ne change rien à mon propos. La question est donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de l'histoire des religions et comment peut-on et doit-on étudier le Coran de ce point de vue? Alors dans le cas présent, que fait l'islamologue quand il étudie l'islam? Bien, l'islamologue s'intéresse aux croyances, aux discours et aux pratiques des musulmans à travers le temps et l'espace, ainsi qu'aux textes, notamment les textes fondateurs, mais pas uniquement. Croyances, discours, pratiques et textes qu'il cherche à comprendre, dont il cherche à déterminer le contenu, les significations, les variations, les évolutions, les sources et origines, les conséquences, en utilisant les ressources des sciences humaines. L'islamologue étudie donc l'islam comme un savant étudierait n'importe quel phénomène humain historique. Et il étudie évidemment le Coran dans le même esprit, avec la distance et la froideur requises par les méthodes scientifiques. Il aborde l'islam comme un objet d'étude, dans l'esprit et avec les méthodes de la science. Il cherche à déterminer ce que l'on peut connaître de l'islam dans le cadre du savoir humain. En d'autres termes, il n'est pas un théologien. Son propos ne relève pas du domaine de la croyance ou de l'intelligence de la révélation. Il ne s'agit pas de réformer les croyances, ni de déterminer le contenu d'une croyance légitime. Alors cela signifie qu'il peut exister des islamologues musulmans, de la même manière qu'il y a des savants, juifs ou chrétiens, qui étudient l'histoire du judaïsme ou celle du christianisme, mais si tous, musulmans, chrétiens, juifs ou autres, veulent faire correctement leur travail, qu'ils portent sur leur propre tradition religieuse ou sur une autre tradition religieuse, ils doivent mettre leur foi entre parenthèses, pour deux raisons. D'une part, parce qu'il ne convient pas d'interpréter les données historiques selon un prisme ou une vision théologique, c'est-à-dire un prisme ou une vision qui ne sont pas susceptibles d'être étayées sur des bases historiques et selon les méthodes de validation et d'argumentation historique. D'autre part, parce que, comme le rappelle volontiers mon ami Manfred Kropp, la science choisit ses sujets librement. L'adage « la raison est autonome, mais dans les limites de la révélation », la recherche est libre, à condition qu'elle ne touche pas au dogme, un tel adage est la négation pure et simple de l'esprit critique et scientifique. En revanche, c'est une bonne définition, peut-être, de l'apologétique. Le bon adage c'est que l'esprit humain et la raison sont autonomes à l'intérieur des règles de logique, de cohérence et d'argumentation. Et donc la science positive moderne ne peut être qu'universelle, ouverte à tout individu, quelle que soit sa religion et sa culture, à condition qu'il accepte ses principes rationnels et ses méthodes. Et la science est universelle précisément parce que, dans le principe normal de l'argumentation et de la validation scientifique, les particularités religieuses et culturelles sont mises de côté. Ainsi, je dis toujours à mes étudiants que je ne dois pas pouvoir déterminer quelles sont leurs convictions religieuses en lisant leurs travaux. Si j'ai de quoi déterminer quelles sont leurs convictions religieuses, c'est soit qu'ils parlent d'autre chose que d'un sujet historique, soit que leur examen des données est coloré par des présupposés religieux. Cependant, lorsque l'objet d'étude est une religion, les choses acquièrent une tension supplémentaire qui requiert que le chercheur ait les idées claires, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors sur ce point, je souscris entièrement aux fameuses thèses de Bruce Lincoln, un éminent historien des religions américain. C'est « Thesis on Method » paru en 1996, il y en a 13 en tout, et le texte anglais est très facilement disponible sur Internet. Et j'aimerais commenter quelques-unes de ces thèses très brièvement. Donc la première thèse explique que la préposition « de », hein, qui relie histoire et religion, histoire des religions, n'est pas un terme neutre. Et il indique la relation, la nature de la relation entre histoire et religion, l'histoire et la méthode, et la religion et l'objet d'étude. Cela signifie que la relation entre histoire et théologie est asymétrique. Le théologien doit prendre en compte les résultats et hypothèses de l'historien, puisqu'il relève de l'usage, de la raison naturelle. L'historien ne prendra en compte les perspectives et le discours du théologien que comme un objet d'étude, pas comme un principe ou un guide possible de sa propre recherche. Sous-entendu, l'historien n'a pas à lire le texte selon les perspectives imposées par les exigences du dogme. La thèse numéro 2 révèle un point très intéressant concernant les différences caractéristiques entre le discours religieux et le discours historique. Le discours religieux, je dirais, a pour principale caractéristique de vouloir parler de choses éternelles et transcendantes avec une autorité également éternelle et transcendante. Au contraire, le discours historique est ce discours qui parle des choses temporelles, terrestres, mondaines, circonscrites, situées, contingentes, avec une voix humaine, bien sûr, une voix faillible, puisque le discours de l'historien est révisable au vu de nouveaux documents ou bien de meilleures interprétations des documents donnés, bien que, bien sûr, l'autorité du discours historique se fonde sur une pratique critique rigoureuse. Par conséquent, c'est la thèse numéro 3, l'histoire des religions est ce discours si particulier qui résiste à, subvertit, renverse l'orientation même du discours de son objet d'étude. Le discours religieux se présente et se représente comme éternel, transcendant, spirituel et divin. L'historien des religions étudie les domaines en question, avec évidemment en insistant sur le temporel, le contextuel, le situé, les intérêts humains, pas toujours très purs, et ainsi de suite. Par voie de conséquence, la thèse numéro 4, on doit pouvoir poser, concernant un texte religieux, les mêmes questions que celles que l'on pose pour n'importe quel autre texte. Et je dirais, dans le cas qui nous occupe, on doit poser, concernant le Coran, les mêmes questions que celles que l'on pose pour d'autres textes religieux, comme la Bible ou les évangiles. Par exemple, comment se fait un texte? Quelle est l'histoire réelle et pas fantasmée de sa composition? Quelles sont ses sources? Qu'est-ce que le ou les auteurs font de ces sources? Quel est le profil du ou des auteurs, par exemple? Il n'y a de ce point de vue aucun irrespect à étudier le Coran comme on étudie n'importe quel autre texte. Je note en passant, et c'est la thèse numéro 5 de Bruce Lincoln, que la révérence est peut-être une vertu religieuse, mais elle n'est pas une vertu académique. Et je veux insister là-dessus. Lorsqu'on étudie le Coran avec les méthodes historico-critiques, critique des sources, critique des formes, critique de la rédaction, donc une de mes méthodes favorites, mais dont je ne pourrais pas trop parler aujourd'hui, lorsqu'on procède ainsi, donc, on ne fait qu'employer des méthodes qui ont déjà fait leurs preuves dans des domaines comparables, quelles que soient bien sûr leurs limites, comme toute méthode. Autrement dit, le fait que le Coran et l'islam soient traités comme n'importe quel autre texte religieux, ou comme n'importe quelle autre religion, ou comme n'importe quel autre phénomène humain historique, avec le même sérieux et les mêmes exigences dans le questionnement et la méthode, n'est en rien polémique. Traiter différemment le Coran et l'islam serait en réalité soit apologétique, soit une marque de paternalisme. Je passe directement à la thèse numéro 13 de Lincoln, qui insiste effectivement sur la nécessité de distinguer entre vérité, prétention de vérité, régime de vérité. Et naturellement aussi à ne pas, je dirais, reprendre de façon non critique la manière dont l'objet d'étude, entre guillemets, se définit lui-même. Je voudrais donner deux petits exemples de ce genre de travers, deux exemples que l'on rencontre très souvent quand on parle du Coran. Par exemple, parler, comme on le fait habituellement, de la collecte du Coran est déjà trop concédé à la tradition musulmane. Cela indique en effet que l'on admet, sans autre forme de procès, que le travail qui a mené à la constitution du Codex a uniquement consisté en la collecte de textes préexistants, le rôle des scribes revenant simplement à replacer, avec plus ou moins de liberté, les pièces du puzzle dans l'ordre que nous connaissons aujourd'hui. Ça ne va nullement de soi. Si on parle de collecte, on présuppose déjà que c'est ainsi que les choses se sont passées. Un autre problème. Lorsque, il croit, tout le monde ici, en lisant les travaux d'historiens, a dû tomber sur ce genre de formulation. Quand un historien, occidental par exemple, parle de la révélation d'une sourate à la Mecque ou de la révélation d'un verset à Médine. L'historien n'a pas le droit de parler de révélation, je vais y revenir. Alors ce n'est peut-être qu'une façon de parler de la part de l'historien, mais c'est une formule maladroite et trompeuse, car elle occulte tout ce qui peut relever d'un processus de composition. Sur la notion de révélation, par exemple, il existe des domaines relatifs à la foi musulmane qui ne relèvent nullement des compétences d'un islamologue. En tant qu'historien de l'islam, par exemple, je suis incapable de montrer ou de réfuter l'idée selon laquelle Muhammad était un prophète qui a reçu des révélations divines. De la même manière que l'histoire du christianisme sera bien incapable de prouver ou de réfuter l'affirmation selon laquelle Jésus était le Fils de Dieu. Pourquoi ? Parce que l'historien travaille sur des documents et des données. Et quel genre de documents ou de données, accessibles à la méthode historique, pourrait nous dire si Muhammad était ou non un prophète ? Quels indices utilisables par l'historien pourraient nous permettre de choisir entre Muhammad était un prophète, Muhammad croyait qu'il était un prophète, on croyait que Muhammad était un prophète. En tant qu'historien, je n'ai donc pas d'opinion sur la question, même si en tant qu'individu, je peux en avoir une. Mais quand il s'agit du Coran, on a de toute façon affaire à du mondain, à du terrestre, à un texte, et même à des témoins matériels du texte. Donc quelque chose d'accessible aux méthodes de la critique historique. Et donc là, la question devient plus précise. Comment aborder un tel texte ? Alors, je voudrais revenir à la thèse numéro 13, justement. Reprendre de façon non critique les termes ou la vision de ce que l'on étudie peut poser problème, si c'est fait de façon non critique. Et j'ai le sentiment qu'il s'est passé un peu de cela dans l'histoire des études coraniques en Occident. Jusqu'à une date assez récente, le paradigme qui était dominant dans les études coraniques en Occident était ce que j'appelle le paradigme Nöldekien, ainsi nommé en référence à la figure tutélaire de Théodore Nöldeke, un immense philologue allemand, mais dont les partis pris et la considérable influence ont beaucoup fait pour installer ce paradigme. Le paradigme Nöldekien, donc, est une simple, en fait, laïcisation ou naturalisation des récits de la tradition musulmane. Là, par exemple, la tradition parlera de l'ange Gabriel dictant le Coran à Mohammed. On fera simplement de Mohammed l'auteur du Coran. Donc le surnaturel est évacué. Mais pour le reste, on ne fait que calquer le grand récit de la tradition musulmane, et je dirais de la tradition sunnite, puisqu'en fait, les sources chiites sont entièrement marginalisées. Et donc on va faire du Coran, dans ce cas-là, le reflet authentique de la prédication de Mohammed. On va postuler un lien indissoluble entre le Coran et la chronologie de la carrière de Mohammed. Notez un point qui me paraît très important. Ce paradigme n'est pas fondé sur un examen du texte coranique lui-même. Je défie quiconque de fonder ce paradigme sur une lecture du Coran tout seul. Il est en réalité fondé sur les récits de la tradition musulmane. Non, ce sont les récits de la tradition musulmane qui fournissent le prisme à travers lequel le Coran est ainsi lu et interprété. Soit. problème, c'est que le travail de Noël de Queux et de ses disciples reflète largement le positivisme historique d'une certaine philologie du XIXe siècle, quelles que soient par ailleurs les considérables réalisations de Noël de Queux et de ses disciples, que je ne sous-estime absolument pas. Mais cette approche, on connaît ses mérites, mais on connaît aussi ses limites. Et on sait en particulier que l'un des grands acquis de la recherche a été de montrer que les sources littéraires arabes, qui fondent le paradigme traditionnel, sont assez tardives et sont biaisées, très biaisées. Elles relèvent avant tout de la mémoire sociale et reflètent moins la réalité historique que l'imaginaire, les préoccupations et les intérêts des communautés, souvent en conflit, où ces récits étaient en circulation. Alors il ne s'agit pas de dire que tout ce que l'on trouve dans la tradition est erroné, bien sûr que non, mais on y trouve trop de choses contradictoires, invraisemblables, discutables, biaisées, déformées, pour que ce corpus des récits de la tradition constitue le point de départ privilégié de la recherche. Je signale au passage un ouvrage récent qui contient une excellente discussion de cette question des sources. C'est le livre de Boaz Chauchan sur la tradition historique arabe. Et c'est un ouvrage que je recommande sans la moindre réserve. En particulier, l'introduction, les 30 premières pages sont une pure merveille. Donc, si les fondements du paradigme traditionnel se révèle fragile, que faire? Comment aborder ce texte? Eh bien, une solution possible, c'est de partir du texte coranique lui-même et de repérer certaines de ses caractéristiques les plus significatives. Et pour cela, peut-être, il faut poser les bonnes questions, et je proposerai de poser deux questions qui sont, comme vous le voyez, d'une naïveté désarmante. Mais sont peut-être les bonnes questions à poser. De quoi parle le Coran? Pour l'essentiel, il relève de la littérature biblique et parabiblique. Quantitativement, c'est difficilement réfutable. Il reflète les traditions bibliques vivantes du Proche-Orient de l'Antiquité tardive. On trouve en effet dans le Coran des récits mettant en scène des personnages bibliques, des thèmes bibliques, eschatologie, création et miséricorde divine, prophétie, des formules liturgiques, même des éléments juridiques et éthiques des mondes bibliques, si on veut. Cette insistance sur la culture biblique du Coran, je le précise, ne nie absolument pas le substrat arabe pré-islamique, mais le situe dans une perspective différente. Deuxième question, mais comment le Coran parle-t-il de ces thèmes bibliques? Alors il le fait parfois, pas toujours, en polémiquant contre les juifs et les chrétiens, mais il le fait en grande partie en faisant référence, ou plutôt allusion, à des récits qui mettent en scène des figures bibliques. Le Coran ne raconte jamais une histoire de façon continue et détaillée. Il est en fait tellement allusif dans ses narrations qu'il ne peut être vraiment compris que par des gens qui connaissent déjà les histoires auxquelles il fait référence. Il y a donc une culture biblique, si l'on veut, qui est supposée connue du rédacteur ou des rédacteurs de nombreux passages du texte coranique, et peut-on supposer d'au moins une partie des destinataires du message. Donc la méthode doit changer. Non pas se fonder sur le lien entre le Coran et les récits biographiques, les Asbab al-Nuzul, les Hadiths ou autres, autour de Muhammad, mais lire le Coran par rapport à ce qui est, je dirais, avant et pas après. Je vais donner simplement un exemple. « Wafkur fil kitab Maryam ibn tababat min ahliha makanan sharqiya » Et rappelle-toi Marie dans l'écriture. Kitab n'est pas le Coran, c'est l'écriture au sens large. Quand elle se retira de sa famille en un lieu oriental, verset 16 de la sourate 19, qui vient juste après, d'un coup, au début d'une section de la sourate 19, et qui est objectivement impossible à comprendre si on le prend comme ceci. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, la tradition musulmane reconnaît qu'il est question du temple de Jérusalem, mais il y a beaucoup plus à dire sur ce passage. Alors, on voit très bien qu'on a ici un verset qui est allusif, par nature. On ne précise rien sur le contexte, ça vient d'un coup, on ne sait pas de quoi il est question. Donc si le verset est allusif, pour le comprendre, il faut trouver le récit auquel il fait allusion, et dont il présuppose la connaissance. Alors en fait, ce verset fait référence à un épisode qui est narré dans le protévangile de Jacques. Le protévangile de Jacques est un texte, un apocryphe chrétien du milieu du IIe siècle, écrit en grec, mais dont les traditions ont été assez disséminées à la fin de l'Antiquité. Et le protévangile de Jacques raconte en fait l'histoire qui va de la conception de Marie à la naissance de Jésus. Et dans le protévangile de Jacques, il se trouve que Marie à l'âge de 3 ans, quitte ses parents et est consacré au temple de Jérusalem. Bon, l'épisode n'est pas historique, évidemment, mais c'est ce que raconte le protévangile. Et je me signale au passage qu'il y a d'autres passages du Coran où le protévangile de Jacques constitue un sous-texte. Et donc, nous avons ici l'épisode, on va dire, en détail, auquel le verset 16 de la sourate 19 fait allusion. Donc, le lieu oriental, c'est le temple de Jérusalem. On me dirait, bon, dans la littérature chrétienne, on le sait, Marie en tant que mère de Dieu est précisément le temple, la demeure de Dieu. Donc, on tombe, on va dire, sur des parallélismes qui sont bien connus. Mais pourquoi diable le Coran parle-t-il du temple de Jérusalem comme d'un lieu oriental? Alors ici, il faut citer un passage très significatif d'Hésitius de Jérusalem, un auteur du 5e siècle, qui, comme son nom l'indique, était actif aux alentours de Jérusalem. Et dans une de ses hymnes, il parle de Marie. Alors cette hymne est importante, parce que cette hymne était, on va dire, absolument centrale dans la liturgie mariale de Jérusalem à la fin de l'Antiquité. Or, je pense qu'il y a de bonnes raisons de penser que cette liturgie mariale de Jérusalem du 7e siècle constitue le soubassement de la sourate 19. Quoi qu'il en soit, Hésitius fait une liste, on va dire, des titres de gloire de Marie. Et il le fait selon une méthode classique dans l'exégèse chrétienne, une méthode typologique, à savoir qu'il, on va dire, prend des passages de l'Ancien Testament qui, évidemment, dans leur contexte, ne parlaient pas du tout de Marie, mais qui l'interprètent comme des préfigurations de Marie. Et il écrit, par exemple, « Un autre t'a nommé, donc Marie, porte fermée, mais située à l'Orient. » Bon, là aussi, ce passage est tout aussi cryptique que le verset coranique, si, évidemment, on ne sait pas à quoi ce passage fait allusion. Et fort heureusement, on le sait, puisqu'on voit très bien, en fait, que Hésitius fait référence au début du chapitre 44 du livre d'Ézéchiel. Bon, Ézéchiel n'est pas un passage simple non plus, je le reconnais, c'est une vision prophétique. Mais, grosso modo, de quoi est-il question? Il est question de l'importance du porche, de la porte orientale, si vous voulez, du temple de Jérusalem. Cette porte orientale du temple de Jérusalem étant le lieu de jonction entre la Jérusalem céleste et la Jérusalem eschatologique. Alors, évidemment, le prince est identifié au Christ par l'exégèse chrétienne, même si le scribe ayant rédigé ce passage ne pense évidemment pas à Jésus. Et l'exégèse chrétienne identifie bien sûr ce repas au repas eucharistique. La présence du Christ étant la préfiguration de ce qui s'accomplira à la fin du temps. Donc, évidemment, pour résumer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la venue au monde du Sauveur se fait par la porte orientale du temple de Jérusalem. Et ce sont là les harmoniques du verset coranique. Et il y a des raisons de penser que le rédacteur n'était conscient. Alors on pourrait multiplier les exemples par dizaines, pour ne pas dire par centaines. Et on peut ajouter que cela vaut aussi pour l'analyse de la composition du texte, et pas simplement pour l'exégèse. Alors, je finis, je conclue, j'ai une page. Voilà. Donc je peux effectivement, je dois aller un peu rapidement, pour juste ajouter un point qui me paraît significatif et qui me semble important de noter pour qu'on voit un peu où en est actuellement, où en sont certains débats des études coraniques. Alors le point est le suivant. Il se trouve que l'arrière-plan chrétien dans le Coran semble, quand on analyse le texte, nettement plus substantiel que l'arrière-plan juif. Plus précisément, il y a de nombreuses et substantielles strates du Coran. On parle de strates et c'est précisément aussi la conséquence de l'usage des méthodes de la critique de la rédaction. Des strates qui révèlent un contexte chrétien. Alors, par contexte chrétien, j'entends plusieurs choses. D'abord, le fait que certains personnages qui ont une place éminente dans le Coran sont typiquement chrétiens. Marie, Jésus, Jean, les dormants de la caverne. Deuxièmement, le fait qu'en règle générale, on peut nuancer, mais en règle générale, les récits coraniques mettant en scène des personnages communs aux juifs et aux chrétiens, sur Adam, Joseph, Moïse ou autre, Abraham, reflètent davantage, grosso modo, les récits chrétiens. En d'autres termes, les sources ou les sous-textes de nombre d'histoires bibliques, entre guillemets, ou parabibliques du Coran, sont plutôt chrétiennes que juives. Bon, grosso modo. Idem pour le formulaire liturgique, plus proche des chrétiens, en tout cas s'il en suit Baumstark. Troisième point, certains thèmes ou arguments rhétoriques sont directement repris aux chrétiens, toute la polémique anti-juive, par exemple, du Coran, est directement calquée sur la polémique chrétienne anti-juive de la fin de l'Antiquité. Également la démonologie coranique est un calque de la démonologie chrétienne. Elle est assez différente de ce que l'on a dans les sources rabbiniques, ou par exemple chez les zoroastriens. Mais on entre maintenant dans deux affinités plus significatives. Pourquoi, à mes yeux, ces deux points sont plus significatifs que les précédents? Parce qu'en fait, ces deux points sont, je dirais, impossibles, très difficiles si on veut, mais à mon avis impossibles, à expliquer par la simple hypothèse d'une dissémination orale. Ça révèle un contexte différent de celui d'une simple dissémination orale de récits chrétiens à travers le Proche-Orient. D'abord, certains textes sont visiblement adressés aux chrétiens et révèlent des interactions et des débats avec des chrétiens. Interactions et débats continus, pas simplement des choses, on va dire, ponctuelles. Une analyse fine des relations entre les différentes strates de la sourate 19 et de la sourate 3 le montre assez bien. Par ailleurs, certains textes ont été composés par des rédacteurs qui ont une connaissance très précise et approfondie de certains du christianisme en général, et parfois de certains textes chrétiens bien précis, de traditions bien déterminées et peu disséminées, et pour le coup qui ne sont pas en Arabie, ces traditions-là. Alors d'où vient cette connaissance précise du christianisme qui ne s'acquiert pas par ouï dire? Sur la sourate 19 par exemple, l'analyse du profil de l'auteur des versets 1 à 33 va, de façon je crois assez massive dans le sens, d'un auteur qui serait un moine de la région de Jérusalem, qui aurait soit rejoint la nouvelle religion, soit mis sa plume au service du nouveau pouvoir après les conquêtes. Quoi qu'il en soit, il y a, et c'est le point sur lequel je voulais en venir, une sérieuse tension qu'il faut expliquer d'une façon ou d'une autre, je ne vais pas le faire ici, entre le fait qu'une partie substantielle du Coran relève d'un contexte chrétien et le fait que le Hijaz, la région d'Arabie où le Coran est censé avoir été proclamé, ne connaît apparemment à l'époque, au mieux, qu'une présence chrétienne marginale, contrairement au reste de l'Arabie et du Proche-Orient. Voilà le genre de questions, je dirais, que les historiens devraient avoir à traiter dans les années qui viennent. Je vous remercie.